14. Lugrin était au Petit Paris. Lugrin ne quittait plus le Petit Paris depuis l'heure où Joël avait coutume d'arriver, c'est-à-dire vers les 2 heures, jusqu'à minuit, heure forcée, heure de police, sans quoi on l'aurait sans doute largement dépassé, car le temps ne comptait plus. Et Lugrin, donc, ce jour-là, on était un samedi, s'était présenté au café à l'heure ordinaire, ayant été prendre place à la table où ils avaient maintenant l'habitude de se tenir, Joël, Chautan et lui, et autrefois Zumbach aussi, mais Zumbach, depuis 2 ou 3 jours, n'était pas venu. La suite des événements a été que Lugrin était arrivé, s'était assis, et est demeuré assis devant rien, c'est-à-dire une table sans chopine, ni verre dessus, attendant que Joël fût là, car on n'aime pas beaucoup chez nous à boire seul. Il faut pour cela être tombé bien bas, ou être un original dans le genre de Calamin. Joël n'était arrivé que vers les 4 heures. 15. À partir de 8 heures du soir, il recommençait à faire beau, et la bise tirait les nuages de devant les étoiles. Elle lui avait dit la veille, « Tu prendras une auto, ils ne te connaissent pas au garage. » Aux environs de 8 heures, ce soir-là, comme tous les jours précédents, une petite bise s'était levée, et elle, cependant, la veille, lui avait encore soigneusement énuméré les précautions qu'il aurait à prendre, continuant. « Fais attention de ne pas avoir tout ton argent dans la même poche, surtout s'il y a de gros billets. Le chauffeur pourrait se méfier. Moi, je cacherai ma valise dans le panier à linge, et comme c'est toujours le samedi que je vais chez la blanchisseuse, personne ne s'étonnera. Je t'attendrai derrière le mur du cimetière. Si tu as l'auto, c'est que tout va bien. » Le vendredi soir, encore une fois, il ne disait rien, il faisait seulement de temps en temps avec la tête un petit mouvement en avant. « On ira jusqu'à Genève, on y arrivera juste pour prendre le train de nuit. Il ne faudra pas qu'on ait l'air de voyager ensemble, surtout pour la visite des passeports. Heureusement que j'avais déjà le mien. Donc tu montes dans un wagon, moi dans un autre, on n'a pas l'air de se connaître. Alors le dimanche on est à Marseille, et le lundi matin... » Il fit un mouvement de tête. Elle dit « C'est bien entendu !» Elle lui prit la main. Elle fut étonnée de sentir que sa main était glacée. Elle dit encore « Qu'est-ce que tu as, Marcel? Tu n'es pas malade, au moins. Ce ne serait guère le moment. » Et ainsi donc, le vendredi. Maintenant, c'est le samedi, jour de demi-congé pour les bureaux, et c'est 4 heures. Joël venait seulement d'arriver. Il n'avait pas ouvert la bouche. « Eh bien, Joël, qu'est-ce qu'on prend ?» Joël s'assit. Il restait assis sans rien dire sur sa chaise cannée. Et Lugrin. « Alors, comme d'ordinaire, hein ? Un demi de nouveau pour commencer. Eh, patron !» Monsieur Cortési se montre. « Entendu !» Et, au-dessus de Joël, il y a eu encore le portrait, qui était donc la reproduction au fusain grandeur nature d'une photographie représentant un de nos hommes politiques, avec des cheveux noirs, bien que rare, et séparé à gauche par une raie, au-dessus d'un grand front, qui était au-dessus d'un lorgnon penché en avant. Mais à ce moment, Joël fit un geste. Il fit un geste d'une main, comme quand on veut écarter quelque chose. Il fit le même geste de l'autre main. Ainsi, les 2 côtés de sa personne ont été comme dégagés, et le portrait s'en va, et tout ce qu'il y avait sur les murs s'en va. « Parce que, a-t-il dit, des fois les choses reviennent. Seulement, il refait son geste. Ça y est. Puis, est-ce toi, Lugrin? Ah, bonjour, où es-tu? » Il voit venir ce verre à sa rencontre. Il lève le sien, disant « Santé !» puis le repose. Puis voilà qu'il l'a oublié. Il a dû nous avoir oubliés aussi, nous autres, parce que Chautan est arrivé, il a dit bonjour à Joël, mais Joël s'est tu, et Chautan s'est tu, et Lugrin s'est tu. Alors ils se tiennent là, tous les 3, dans le silence. C'est ailleurs qu'on parle, on entend. S'il avait été véritablement Jésus-Christ, ailleurs on parle, on continuait. Croyez-vous que les portes ne se seraient pas ouvertes devant lui, toutes grandes? On aurait eu beau l'enfermer. S'il avait été Jésus-Christ, et pourquoi donc est-ce qu'il ne l'aurait pas guéri la petite, puisqu'il n'aurait eu qu'à vouloir, avant de se laisser emmener, à supposer qu'il est permis qu'on l'emmène. » Mais Madame Raymondin a dit : « N'avez-vous pas lu ce qui est écrit ? Ces voix ne sont pas les nôtres. » M. Panserre n'était pas rentré pour le repas de midi. Un peu plus tard, il fit dire à sa fille qu'il ne serait pas là non plus pour le repas du soir. Elle a eu tout le temps de faire ses préparatifs. Elle a mis dans sa valise ses deux plus belles robes et un peu de linge. Pendant ce temps, les deux autres sont déjà dans leur wagon, qui est un wagon-salon américain. On ne reconnaissait d'abord la nature du lieu, tant la richesse des banquettes imitait celle d'un meuble de style, qu'au léger balancement des deux personnages, vus de face et qui tantôt les éloignaient l'un de l'autre, tantôt les portaient l'un vers l'autre, parfois aussi les faisaient pencher tous deux du même côté. Mais brusquement, par la portière, une vue vous était ouverte sur l'espace, tout en ligne droite tendue, fuyant contrairement au sens du train. Alors, nous aussi, demain, et les pays pour nous aussi viendront se mettre entre nous et ce qu'on quitte. Regardant la pendule, la valise mise dans le panier à linge, avec son chapeau et un manteau, et il y avait une serviette dessus. On la verra sortir, tête nue. On pensera, c'est Thérèse qui va chez la blanchisseuse. En effet, c'est ce qu'on a pensé. Le peu de gens du moins qui l'ont vue sortir de chez elle, car c'était l'heure du repas du soir. Un petit peu de bise commençait à être dans les saules du cimetière, dont elle a soulevé légèrement le bas des branches souples, comme des lanières de fouet. Mais elle n'était pas encore assez forte pour faire aller en avant la pointe des cyprès. C'est un peu au-dessus de la route. Les gens d'abord qui l'ont vue ont pensé « Elle va chez la blanchisseuse. » Ensuite, « Elle revient de chez la blanchisseuse. » Et plus loin, s'il y a eu encore des gens plus loin, « Elle va voir la tombe de sa mère. » Cependant, ils descendaient en assez grand nombre dans les vignes, ayant pris par les sentiers qui permettent d'éviter la route et ses contours. C'est quand la bise commençait à nettoyer le ciel. Et il y a eu encore ceux-là qui venaient. Il y a eu le bruit de ceux-là qui venaient, car c'était de la jeunesse, pour la plus grande partie. Ils venaient par files de trois ou quatre, qui étaient les unes au-dessus des autres, ou à même hauteur, mais séparées par une assez grande distance. Il y avait ces files parce qu'on ne peut passer sur les sentiers qu'un de front. Elles ressemblaient à des bouts de collier tenus encore par le fil. Ces gens qui descendaient les vignes, tous ces villages d'en haut du mont et de derrière qui venaient, parce que c'était un samedi soir. Des morceaux de ciel vert sont apparus, d'abord petits et en grand nombre, puis en petit nombre et grand. On voyait cette rue qui monte. Longtemps les passants y avaient été rares parce qu'elle n'est guère fréquentée que par ses propres habitants. Dans le fond de la fente étroite qu'elle faisait entre les toits, c'était seulement un enfant portant un pain ou une femme avec son pot à lait. Dans le milieu de la rue à peu près, il y avait un bâtiment tout en longueur et bas, pris entre les façades des maisons par un de ses bouts. L'enfant s'est arrêté devant, la femme s'est arrêtée devant, un moment après. Il ne descendait pas encore dans les vignes. L'enfant, la femme, puis d'autres personnes se sont arrêtées devant cette porte, qui aurait dû être ouverte, au lieu qu'elle restait fermée, et sur laquelle une pancarte, portant le sceau de la commune, était fixée aux quatre coins par des punaises. Alors l'enfant a lu, avec assez de peine, et la femme, pas beaucoup plus facilement, avis au public. Ils sont là, ils sont repartis. Le menuisier signé avait son atelier quelques maisons plus haut. Lui aussi est venu. Avis. Ce titre, qui est en majuscule, est plus bas. Il y a quatre ou cinq lignes écrites à la machine, avec deux signatures à la main. Avis au public. Par décision de la municipalité et jusqu'à nouvel avis. Tout un texte que signé a lu, puis relu, en fumant sa pipe, un bout de planche sous le bras, avec son pantalon de futaine et son gilet déboutonné, ce qui a pris du temps, de sorte qu'il a été rejoint. Alors signé ôte sa pipe de sa bouche pour dire quelque chose. L'homme qui l'avait rejoint lisait toujours. Alors signé attend que l'autre ait fini. L'autre hoche la tête, et une femme encore à ce moment a descendu la rue. Une fenêtre s'ouvre. Madame Rouillet ! Il y a au-dessus de la porte de la salle un globe en verre dépoli. C'est une lampe à arc qui, d'ordinaire, à ces heures-là, était allumée. J'irai bien moi-même, mais je ne peux pas. Je viens de coucher le petit. Madame Rouillet va voir. C'était avant qu'on descendît dans les vignes. Seulement il fait nuit ici de très bonne heure, à cause du peu de largeur de la rue. La lampe à arc aurait dû être allumée. Elle ne s'allumait toujours pas. Et la porte restait fermée. Il y avait maintenant tout un groupe devant la porte. Tandis que, pas très loin de là, Madame Emery est seule dans la boutique, à faire aller son fer sur le devant à plis d'une blouse de mousseline. La bise n'était pas encore assez forte pour faire pencher du côté du sud la pointe des cyprès, et seules les feuilles d'en haut des platanes bougeaient, étant dressées contre le ciel comme des mains qui vous feraient signe. Sur le quai régnait encore une grande chaleur, et c'était seulement au débouché des rues allant du nord au sud qu'on sentait l'air frais vous venir dessus. Il y avait par place ces petits ruisseaux d'air, mais ailleurs les murs restaient chauds, vous envoyant contre un des côtés de votre personne, quand vous passiez, une bouffée de chaleur comme une coupe de mare de vigne qui fermente. Comme quand on décharge le pressoir, coupant dans l'épaisseur du marc, avec la pelle à fossoyer, des espèces de gros moellons qu'on empile. Alors ils deviennent brûlants, tout en dégageant une odeur qui fait que la tête vous tourne. M. Cortési paraissait inquiet. Vers les 7h30 déjà, les clients avaient commencé à affluer. Ils avaient vite été faire de nouvelles recommandations à la servante et à sa femme. « Pas plus d'un litre par personne, vous avez bien compris. » C'était à cause d'un avis officiel qu'il venait de recevoir, et où on le prévenait qu'on fermerait son établissement en cas de scandale, montrant de la tête en particulier la table où se tenait Joël, et sur la terrasse, celle où Jotran venait de s'asseoir avec des amis. Sous des îles de nuages dans le ciel vert, à présent, tandis qu'il y avait avant des îles de ciel dans les nuages. Puis un petit bruit a commencé à se faire entendre parmi tous les autres bruits. Un petit bruit comme celui d'un ruisseau sur les pierres. Puis, Joël, les mains noires des feuilles des platanes allaient en avant. « Monsieur Joël, puisque vous avez vu ça, vous, pour de vrai, ils ne veulent pas me croire. 8 000 mètres, 9 000 mètres, je leur dis. C'est qu'ils sont tellement habitués à leurs petites montagnes. » Joël ne répondait pas. Et Jotran, aux autres, « Vous voyez bien, c'est que vous avez vécu trop étroit jusqu'à présent, mes pauvres amis. Vous ne savez rien, vous vous contentez d'une femme. Eh bien ça, c'est des pays où on en a 3, 4, 5, on en a tant qu'on veut. » Il disait. Et l'avantageux de la chose, ces pays, c'est qu'on ne va plus avoir besoin d'y aller. Ils viennent. Il a dit. Vous sentez, ça vient. Il riait très fort. Monsieur Joël, est-ce pas vrai? Alors on commence à sentir venir, en effet. On a commencé à sentir que ça venait, parce qu'ils étaient bien une douzaine, avec Joël. Suite des choses. Et à mesure, Jotran continuait d'énumérer, énumérant ce qui venait. Il y a bien eu toujours nos montagnes. Mais voilà que cette autre chaîne, 4 fois plus haute, s'est mise en travers d'elle, posant dessus par un de ses bouts. Elle monte obliquement dans le ciel qu'elle occupe presque en entier. Alors il y a un avion qui vous arrive droit contre. Il y a un avion qui vous arrive droit dessus par un petit trou. Vous vous souvenez? Et c'est comme si la salle se mettait à courir à votre rencontre, sur des roulettes. Vous vous souvenez? Et puis, ces moines, on se cramponnait à sa place. Et eux, on les voyait descendre leurs escaliers parmi les singes, parce que c'est taillé dans le roc. Et ils ont des robes, et ils vont mendier. Ils ont une marmite pour faire cuire leur riz. Alors celui-là, tu sais, qui se faisait une hutte de neige, parce que là-bas, ils construisent leur maison avec un couteau et sa vie d'huile de phoque. Alors tu te rappelles la vitre? C'était une feuille de glace. Et le ciment, c'est qu'il crachait dessus, parce que ça gèle tout de suite là-bas. Quand, à présent, le pôle vient, le pôle qui ne fait point de bruit, marchant comme dans des fourrures, et qui est blanc parmi toutes les belles couleurs, le vert, le bleu, le rouge, le jaune. Il y a aussi des hommes jaunes. Il y en a des gris, des noirs, des blancs, des rouges, et puis ces ponts transbordeurs qui se mettent à craquer et à grincer. 100 tonnes qui sifflent, avancent sur des rails, vont en avant, vont de côté, soufflent de la vapeur. À vapeur ou bien électrique, ça s'éteint, ça se rallume. Alors on a entendu les chaînes des ancres se tendre, et le petit port, notre pauvre petit port à nous, se met à pencher sous les montagnes, parmi les huttes de neige, avec des anamites portant des corbeilles d'oranges sous les grues. Penche, penche vers nous, penche de plus en plus vers nous, se remplit de navires à voile et pas à voile. Et puis vous voyez encore les condamnés à mort en Amérique, quand on les fait asseoir dans un fauteuil qui a des pieds en caoutchouc. Pendant que les voiles claquent, les chaînes des ancres craquent. Sur la montagne de Notre-Dame de la Garde, on tire le canon en l'honneur du président de la République. N'est-ce pas, Joël, que tu as vu ça? Tu nous l'as dit dans les vieux temps. Ou bien c'est les Romains. Un coup de bise. Il a descendu avec un bruit d'eau la rue qui est sur un des côtés du café. Une de ces rues allant du nord au sud, et le café en occupe l'angle. La bise l'a descendu tout à coup avec violence. Et avec violence aussi, il y a eu dans la rue des voix, un bruit de pas. C'est une bande de gens qui arrivent. 8 heures. Ils ont dit, « Eh bien, voilà une histoire. Vous ne savez pas? C'est fermé. » Ils arrivent devant la terrasse du Petit Paris. Ils voient tout ce monde. Ils s'arrêtent. « Et ce n'est pas du jeu. Nous convient de Saint-Léger. Nous convient de Saint-Jean-d'en-Haut. 2 heures de marche. » Garçons et filles, toute une troupe qui avait descendu les vignes. Et on les interroge. Et ils disent, « Il y avait un écriteau. » C'est qu'ils ont eu peur. « Mais ça ne fait rien, » a dit Jautran. « Mettez-vous là. Je vais vous raconter. Ce sera comme si vous y étiez. » Pendant qu'il y en a quand même qui se fâchent, et on donne des coups de poing sur les tables. Et dans les autres cafés de même, car on entend crier et chanter partout dans la ville. Et ça vient. « Ça ne fait rien, mettez-vous là, mettez-vous là, je vous dis. » Ainsi la parole passe, descend et gagne, étant ici maintenant sur cette terrasse, tandis qu'à la table de l'intérieur où ils sont trois, les trois se taisent, étant au-delà de parler. Jour, nuit, jour, nuit, fini. Attention, ça recommence. Monsieur Cortési allait et venait entre les tables, mais on ne buvait pas autant qu'il aurait cru. C'est qu'il n'y a pas qu'une espèce de vin. Les animaux sauvages, les pas sauvages, les gros, les petits, les moyens, à poils, à plumes, avec des becs, des dents, avec des ailes, avec des pieds, comme quand Noé a ouvert l'arche. Pas seulement une espèce de vin, et pas seulement non plus une espèce d'ivresse. Toujours inquiet pourtant, le patron, et allant et venant, puis sa femme l'appelle au téléphone. Et elle est morte il y a 2 ans, c'était dit sur l'affiche. Eh bien quand même, elle a été là. Tu as les Assyriens, tu as les vieux Grecs, tu as les Hébreux. Monsieur Cortési revenait, Monsieur Cortési a tiré sa montre. Et qu'ils ferment seulement s'ils veulent, parce que c'est en liberté à présent, tu comprends? Ça est venu, ça se promène, ça est ici. On a fait sauter les murs, hein? On est partout, tout est permis, tout est possible. On va avoir chacun autant de femmes qu'on voudra. On rit. On va avoir 10 religions. Et à présent, il y a une magnifique aurore boréale au-dessus des icebergs. En même temps qu'on voit dans le reflet vert d'un des phares sur l'eau du port un bateau noir avec un homme noir dedans. Puis c'est dans le reflet rouge, sur lequel alors des cavaliers passent, autant le reflet, autant le bateau. Parce qu'on va pouvoir aller à cheval si on veut. Pardieu ! Et, entre deux lauriers roses, le petit André Rossier, l'infirme, a été vu, qui se tient là sur ses béquilles, qui regarde, qui écoute, qu'on a vu, qu'on ne voit plus. Et si on veut aller tout nu ? Une table dégringole. « Tu viens ?» a dit Calamin. On le distingue alors. Il était seul comme toujours, et toujours dans son même coin, avec une énorme tête. Avec une énorme tête et une barbe de 3 semaines qui ont occupé un instant toute la place disponible, pendant qu'il les porte en avant. Puis ses mains aussi sont montées dans le champ de vue. On a vu qu'il les avançait sur la table, pendant que sa bouche s'entr'ouvrait, et il y a eu une distance entre les lèvres. « Tu viens ?» Il ne semble pas que Joël ait entendu. Lui aussi, on le voit, en grande dimension, assis non loin de là. Mais ses yeux étaient déjà sans doute trop pleins de choses pour plus rien voir. Ses oreilles trop pleines de choses pour rien entendre. Chotin lui a mis la main sur l'épaule. À ce moment, le patron et sa femme ont été vus allant ensemble à la terrasse. Puis le patron s'est retourné, faisant signe à la servante qui accourt avec un torchon. C'était cette table renversée. Une fille tout à côté troussait sa jupe, la secouant des deux mains. Des clients, plus loin, étaient montés debout sur des chaises. « Tu viens ?» Puis, « C'est le moment, Joël, tu sais !» Car voilà alors que par une des fenêtres donnant sur la rue, dans une des barres de lumière qu'elles font là et entre les rideaux tenus relevés par les embrasses, des visières de casquettes brillent, les galons d'or d'une manche ont brillé. « Si tu restes, tout va te tomber dessus, viens avec moi !» Calamin, tout en se levant, fait signe du doigt à Joël, et Joël cette fois le regarde, mais sans bouger. Chotin alors empoigne Joël par sa manche. Il se laissait faire, on l'avait mis debout. Personne ne prenait plus garde à eux, à cause qu'on était bien trop occupé de ce qui se passait sur la terrasse, où le désordre et le vacarme allaient grandissant. Ils ont pu ainsi amener Joël à Calamin. Chotin et Lugrin ont pu l'amener. Ils ont amené Joël, qui se laissait toujours faire, n'ayant pas l'air de savoir ce qu'on lui voulait, n'ayant l'air de s'apercevoir de rien. À côté du comptoir, une porte menait à la cuisine. De la cuisine, on pouvait passer dans un réduit qui ouvrait à son tour sur la rue de derrière. Et Calamin tenait Joël par le bras. Ainsi, ils ont traversé la cuisine, ils ont passé à côté de la table, encore chargée de vaisselle pas lavée, puis entre des caisses empilées et des rangées de bouteilles vides. Là, ils se sont trouvés dans l'obscurité. Mais Calamin semblait connaître parfaitement la disposition des lieux, et Calamin n'avait toujours pas lâché Joël, pendant que son autre main allait chercher la poignée de la porte. Cette ruelle, alors. Personne dans la ruelle. Un instant encore, le grand bruit continu des voix leur est venu par-dessus la maison, avec des rires et des cris isolés, et de temps en temps un choc sourd. Puis, plus rien. Ils écoutent, on n'entend plus rien, et non seulement derrière eux, mais où qu'on se tourne à présent, comme si la ville entière d'un seul coup s'était endormie. « Oh !» a dit Calamin, « ils se remettent vite au pas, c'est ça qui est grave, parce que pas toi, toi, nous. »« J'ai vu ça, » a repris Calamin, « c'est pourquoi je t'ai dit de venir avec moi. On sera ensemble. » Il parlait bas. « Viens, laisse-moi faire. Ils aiment seulement un petit moment. Ils ne peuvent pas longtemps. C'est ça, tu te tiens à moi. On est des frères. » Il disait. « Il y a qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quand on aime, c'est dangereux. Enfin, puisqu'on est les deux, on tâchera de s'arranger. Tu vas rester chez moi 2 ou 3 jours en attendant, frère Joël. » Sous les étoiles blanches, sous une étroite bande de ciel noir au bord coupé, tout de travers, comme avec de mauvais ciseaux, dans cette ruelle, d'abord, les deux, et Calamin soutenait Joël tout en le faisant avancer. Ainsi ils ont tourné, dans une autre ruelle, puis dans une rue, et toujours personne. Par moments, on apercevait, dans le bas des maisons en enfilade, la devanture encore éclairée d'un café. Mais là aussi, tout se taisait. « Tu vois, je te disais bien, » a recommencé Calamin. Alors il marche encore un moment, tout en continuant de parler. C'était un peu plus loin, c'était derrière le château, dans une cour. Il fallait passer sous une voûte. Ils ont passé ensemble sous la voûte. On voyait sur un des côtés de la cour 2 ou 3 charrettes au brancard levé. Sur l'autre côté de la cour, il y avait une bâtisse sans étage, dont le toit à une seule pente joignait dans sa partie d'en haut une vieille muraille noire, où toutes sortes de plantes sauvages avaient trouvé à prendre racine. La chatte, qui les avait entendus venir, a miaulé derrière la porte, pendant que Calamin fouillait dans sa poche, cherchant la clé. On a pu voir la chatte, parce qu'elle était blanche, lui sauter contre comme un chien, quand il eut ouvert. « Méfie-toi, » a dit Calamin, « il y a deux marches. » Puis, « Attends, je vais allumer la lampe. » Il a fouillé de nouveau dans sa poche. Il y a eu une faible lueur bleuâtre provenant du soufre qui se consumait en arrière de ses mains, qu'il tenait fermées autour de la flamme. Il disait, « On te soignera bien, et eux, ne t'en occupe pas, il y a longtemps qu'ils ne comptent plus. » Il tenait l'allumette devant lui à l'intérieur de ses mains. Ainsi, c'est seulement sa barbe et le haut de sa chemise sans col qui ont été éclairés. Puis il a porté la petite flamme à la rencontre de la mèche, laquelle fumait. Mais il n'a pas eu l'air de s'en apercevoir. Il a fait entrer Joël, il a fermé la porte. La lampe fumait. La chatte miaulait toujours en se frottant à vos jambes. C'était une espèce de cuisine servant d'atelier. Il y avait dans un coin un fourneau de fonte monté sur quatre pieds. Il y avait devant la fenêtre une grande table basse, couverte d'outils, parce que le métier de Calamin était d'acheter de vieux objets qu'il réparait pour les revendre. Toute espèce de pendules étaient pendues au mur. À tout moment, les pendules sonnaient. Elles sonnaient toutes les heures. Il avait fermé la porte. Il avait fermé ensuite les contrevents. On a été, on ne savait plus où. Et on ne savait plus le lieu, mais on n'a plus su le temps non plus. À cause de ces pendules, dont l'une sonnait 12 coups, celle-ci 4 coups, et l'autre 8 l'instant d'après. Une pendule sonna 8 coups. C'est alors qu'on a entendu dans la rue, de l'autre côté de la voûte, des pas et des voix qui ont passé. Il y a eu un premier passage, suivi d'un autre. Calamin avait été chercher du lait qu'il avait versé dans une soucoupe pour la chatte. Il a dit, « C'est les gens d'en haut qui remontent. » La chatte a bu. C'est fini. Plus rien dehors qu'un grand silence. Et ici le bruit des pendules et le petit bruit de la langue de la chatte lapant le lait sur le carreau. 5 heures sonnent. Le carreau autour de la soucoupe était tout éclaboussé. 2 heures sonnent. On a entendu Calamin. « Viens, frère Joël, tu dois être fatigué. Tu as terriblement couru aujourd'hui. » Il l'a fait passer dans une seconde pièce non moins encombrée, mais où il y avait un sommier avec un matelas. « Déshabille-toi. Veux-tu que je t'aide ?» Il devait parler fort et répéter ses phrases, comme quand on s'entretient avec quelqu'un par-dessus un large cours d'eau ou bien d'un versant de vallée à l'autre. 11 heures sonnent. 7 heures sonnent. 7 heures du matin ou 7 heures du soir. 16. À 1 heure du matin, M. Pensée rentra chez lui. Il était tout content. Les choses avaient tourné beaucoup mieux qu'il n'aurait pensé, même au Petit Paris, n'ayant rencontré de résistance sérieuse nulle part au cours de ses rondes. Il n'avait quitté le poste qu'après s'être assuré que l'ordre régnait partout. Et il se félicitait, songeant au beau rapport qu'il allait pouvoir faire tenir à ces messieurs de la municipalité, pour peu seulement que le dimanche qui commençait n'apportât pas de nouvelles complications. Mais il se promettait d'y veiller. Alors, nous qui sommes des hommes respectueux de la loi, ça nous fait plaisir de lui voir prendre le dessus. Et nous qui sommes justement là pour faire respecter la loi, tandis qu'il tournait tout doucement la clé dans la serrure, ça nous fait doublement plaisir, comme de juste. Puis il a ôté ses bottines à élastique sur le paillasson, marchant en chaussettes dans la cuisine. Il a été écouté derrière la porte de la chambre de Thérèse. Pas le moindre bruit. Elle dormait d'un sommeil parfaitement tranquille, comme il a pu le constater encore, ayant appliqué son oreille contre le panneau de sapin peu épais. Toujours pas le moindre bruit. Mais à présent, c'est elle qu'il va s'agir de surveiller, se disait M. Pensère, parce que les mauvais exemples ne lui ont rien valu. Il s'endormit tout de suite. À 7 heures, il fut debout. Il se rendit au poste, où il resta plus longtemps qu'il ne comptait, ayant eu diverses dispositions à faire prendre à ses hommes, touchant l'emploi de la journée. Il ne rentra chez lui que vers 9 heures. Il ne se priva donc point cette fois de se moucher plus bruyamment encore qu'à l'ordinaire dans l'escalier, pensant ainsi prévenir Thérèse de sa venue. Et le premier étonnement qu'il eut fut de voir que la porte restait fermée. Le second, l'ayant ouverte lui-même, fut que le feu n'était même pas allumé. Il appela « Hé, Thérèse !» On ne répondait pas. Il appela plus fort. Il avait été pendre sa casquette au clou, ensuite il avait déboutonné son ceinturon. Il faisait chaud. Il a ôté sa tunique. « Qu'est-ce qui se passe » pensa-t-il. « Est-ce qu'elle serait malade ?» Il a été jusqu'à la porte. Il a heurté. « Dis donc, il est 9 heures, Thérèse !» Il pesa sur le loquet, et un grand silence se fit. Puis le jour se met à baisser pour lui, comme quand il y a une éclipse. La porte était allée toute seule en arrière, étant entraînée par son poids, et les gonds devaient en avoir été huilés récemment, de sorte qu'elle va en arrière. La porte a été battre contre le mur. Il y avait longtemps déjà qu'elle avait battu contre le mur. 3 heures sonnent, 8 heures sonnent. Il sonne midi ou minuit. Et Joël était sur le matelas, dans le mauvais éclairage de la lampe qui filait, laissant tomber une pauvre lumière bizarrement découpée sur ses bords par l'abat-jour de carton vert, tout déchiré. « C'est ça, frère Joël, » a dit Calamin. « Reste bien tranquille. Ne t'inquiète de rien, je suis là. » On l'a entendu encore parler quelque part, très loin, dans la cuisine. Il descend une pente. On ne voit plus que sa tête. On ne voit même plus sa tête. Il a encore parlé comme dans le fond d'un ravin où il y aurait de l'eau, et à gauche sont des montagnes. Il y avait comme une route blanche vue de face et pointue du bout qui allait dans le pied de ces montagnes. Est-ce que l'orage éclatera avant midi? C'est ce que dans la ville on se demandait aussi. On voyait les gens sur le pas des portes sortir seulement la tête, tournant la figure vers en haut, où le ciel était entre les toits comme de la terre mouillée, comme de la terre après qu'il a plu. 1 heure sonne. Avant midi ou non? Une route blanche qui descendait entre des caisses. 1 heure sonne, puis 2 pendules sonnèrent en même temps. Et à présent Calamin s'est tu, tandis que, là-bas, dans la ville, marchaient vite, droit devant eux, à ras les murs, allant faire une commission à la boutique qui n'est ouverte que de 11 heures à midi le dimanche, ou bien allant chez le coiffeur. Et silence, à cause d'une barbe de 3 jours, peu convenable, à faire tomber. Pourtant, un peu plus tard, dans la grand-rue, une femme s'est arrêtée devant la plaque de cuivre du docteur Murisier, sur laquelle on lisait « Consultation tous les jours de 2 à 4, sauf le jeudi ». Elle sonne, et la porte, d'abord, s'est entr'ouverte seulement. Mais la femme s'est mise à parler beaucoup, avec des gestes. Alors la porte s'est ouverte un peu plus. La femme entre. L'instant d'après, elle est reparue, et le docteur Murisier en personne l'accompagnait, qui marche à côté d'elle, pendant qu'elle continue à parler. Et le docteur lui pose des questions, et elle y répond. C'est notre vieux docteur Murisier, un médecin à l'ancienne mode, un homme qui connaît toutes les familles du pays depuis 2 ou 3 générations, avec des lunettes d'or et une petite barbe, et dévoué comme personne. Regardez, on vient le chercher un dimanche matin. Eh bien, il vient tout de suite. Et après, il y a eu cette chambre pleine de femmes, et qui sentait les cataplasmes et l'ammoniaque. Mais le docteur Murisier secoue la tête, après s'être tenu longuement penché sur le lit, encore une fois. Toutes ces femmes sont là, derrière les fenêtres fermées. Lui n'est plus là. Madame Roy a dit alors à Madame Raymondin, « Eh bien, votre Jésus, il ne lui a rien pu. » Elle a eu l'air toute contente. Ensuite, elle se met à pleurer. Toutes les femmes viennent autour d'elle, mais elle s'est laissée tomber, assise, regardant à terre, les mains sur les genoux. Elle lève un petit peu ses mains. On lui a dit, « Voyons, Hortense !» Elle lève un petit peu ses mains. Tant pis. On entend qu'on casse des fagots dans la cuisine. Et ici, c'est dans la chambre, c'est sous le plafond bas, avec ses poutres passées à la chaux. Tant pis, tant pis. Puis, tout à coup, de nouveau, « Mais Suzanne, où est-elle » Alors elle a regardé tout autour d'elle dans la chambre, elle recommence. « Et lui ?» parlant pour la première fois de lui. « Parce que s'il était là, peut-être qu'il pourrait encore la sauver, puisque tout ça, c'est de sa faute. « Mais non, personne. On m'abandonne. « Oh, ma pauvre petite ! Oh, ma pauvre petite !» Elle a couru vers le lit, tout juste si les femmes ont pu la retenir à temps. Elle s'est assoupie. Vous pourriez lui faire du mal. Voyons, calmez-vous, Hortense. On l'a tirée en arrière. On lui a dit, « Du reste, on va vite aller le chercher. On tâchera bien de vous le trouver. On tâchera bien aussi de vous trouver Suzanne. » De nouveau, deux femmes qui courent dehors. Il sonne 2 heures. Il sonne 3 heures. Il sonne 7 heures. On attend que l'orage vienne. Il ne vient pas. Il ne veut toujours pas venir. Et on a été chez Madame Joël. Mais Madame Joël n'a pas pu vous dire où il était. Elle pleurait seulement. Elle disait, « Je ne l'ai pas vu depuis 2 jours. » On lui a dit, « Écoutez, tâchez quand même de venir. Elle verrait qu'on s'occupe d'elle, la pauvre femme. Vous lui expliqueriez vous-même ce qui en est. » Et on a été chez Madame Emery. Madame Emery a dit, « Représentez-vous qu'elle vient seulement de rentrer. Ma chambre est juste au-dessous de la sienne. J'entends tout. Oh, je veux bien essayer, mais je ne vous promets rien. » Elle a essayé. Là-bas, 1 heure sonne. Et puis 1 autre heure sonne. L'orage, s'il voulait venir, ferait du bien. Suzanne était de nouveau couchée à plat ventre sur son lit. Madame Emery lui pose la main sur l'épaule. Suzanne tenait son visage enfoncé dans ses bras, mis l'un sur l'autre, et qui ne laissait voir que son chignon défait, plus noir encore de s'être défait et de pendre sur l'oreiller. « Suzanne, c'est Madame Roy qui vous demande. Il paraît que la petite ne va pas bien. » Elle n'a eu qu'un mouvement de tête pour dire non, sans qu'elle ait même tourné vers vous. « Suzanne, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien. » « Écoutez, Suzanne, si vous pouviez lui rendre ce service à la pauvre femme, ce serait une charité de votre part. Elle vous a eu près d'elle tous ces jours passés, et aujourd'hui, justement, parce qu'il paraît que le docteur a dit que c'est la fin. » Le même mouvement dans la tête, dans tout le dos. « Oh, Suzanne, et si seulement je savais ce que je peux faire pour vous aussi, alors c'est vrai, vous ne voulez rien dire ?» Et qu'est-ce qu'il va falloir que je réponde à la personne qui attend? Quand justement on fait tout ce qu'on peut pour cette pauvre Madame Roy, et on a même été chez la mère de ce... voyons, comment l'appelez-vous? Vous savez bien celui qui a tourné la tête à la petite. Oui, pour lui dire de venir. » On a crié. « Je vais !» Elle est assise sur le lit. « Dites-leur que je vais. S'il vous plaît, Madame Emery, allez vite leur dire que je suis prête, que j'arrive. » Elle était déjà devant son miroir, les mains levées, les 2 mains occupées, allant avec ses mains parmi ses cheveux qu'elle tord. Parce qu'il ne faut pas qu'il vienne. Parce qu'il ne faut pas qu'il vienne. Ou bien, ah mon Dieu, elle ne sait plus. Il y avait toujours toutes ces femmes dans la chambre. Il y en a eu ensuite 1 de plus. C'était Madame Joël. Elle disait de nouveau, « Je ne l'ai pas vue depuis 2 jours. » À l'instant d'après, il y a eu 2 femmes de plus. Celle qui venait d'entrer se met à rire. « Moi, je sais où il est !» Elle rit encore. On lui a dit « Où ?» Puis on a dit à Madame Joël, « Oh, madame, allez le chercher, dépêchez-vous » Et à Madame Roy, « Écoutez, il y a Suzanne qui est là. Et écoutez, il y a aussi Madame Joël qui va aller chercher son fils, et elle va le ramener. » L'orage n'éclatait toujours pas. Ici, des heures sonnent continuellement. Le temps va en avant, il revient en arrière, il tourne en rond. Calamin s'était relevé entre les caisses, ayant de nouveau versé du lait dans la soucoupe pour la chatte. La lumière de la lampe est une route qui finit en pointe. On voit la chatte faire le gros dos, elle ronronne, puis elle s'enfonce et se perd dans l'ombre. On a entendu des pas dans la cour. Calamin alla fermer la porte de la chambre. Après quoi, il s'est tenu dans la cuisine, parce que le pas s'est rapproché. S'arrête. 12 coups. Minuit. Midi. Le pas repart. S'arrête de nouveau comme quand on est dans l'ignorance d'un lieu. Mais ici on a vite fait de s'y reconnaître. Et on a heurté à la porte. Puis de ce côté-ci de la porte. On a entendu Calamin qui disait « Non !» Une voix de femme dit encore quelque chose dans la cour. Et qu'à la main. Non, il n'est plus ici, je regrette bien.
Excusez-moi.
Pas de quoi.
Il y a eu un premier coup de tonnerre. À cause de l'obscurité régnant dans la cuisine, on avait pu voir un peu avant un accroissement brusque de lumière se faire dans les fentes de la porte, en même temps que la lumière avait changé de couleur. Calamin faillit marcher sur la chatte. « Ah, tu es là, Minette !» Une pendule sonne encore. Et, comme Minette s'est mise à miauler, Calamin l'a prise contre lui. « Doucement, Minette, doucement !» De nouveau, cette couleur est apparue, faisant comme des rayures dans du drap. Puis la porte a été tout entière d'un noir uni. Et c'est à ce moment que Madame Joël était revenue chez Madame Roy, et était seule, et avait secoué la tête, toujours pleurant. On a vu alors Suzanne aller vite encore jusqu'au lit, et quand même ceux qui étaient sur le lit ne pouvaient plus sentir, ni comprendre, ni voir, ni entendre, elle s'y est toute penchée, s'y penchant avec des petits mots, et des caresses, et des baisers, s'y penchant, s'y repenchant, puis elle se précipite dehors. Madame Roy a levé les mains, elle les a laissées retomber, elle disait. C'est pourtant dommage, je venais de lui acheter un joli petit écossais pour lui en faire une robe du dimanche. Madame Raymondin, il vous faudra prendre le coupon. Tâchez de passer demain chez Bloch, peut-être qu'il voudra bien l'échanger. L'orage dura jusqu'à 9 heures du soir, c'est-à-dire le premier orage, car il y en a eu un second pendant la nuit. 3 cyclistes, surpris en cours de route, étaient accourus se réfugier au Petit Paris, poussant devant eux leur machine. L'un avait un maillot jaune citron, l'autre un maillot grenat. Le troisième était encore de chemise. Son pantalon, troussé jusqu'au-dessus du genou, laissait voir ses gros mollets nus, étranglés par les jartelles. Ils buvaient de l'eau de cerise pour se réchauffer. Ils étaient seuls dans le café, où ils causaient avec le patron en attendant une accalmie. Comme elle ne venait toujours pas, ils se firent servir du pain et du fromage. Il n'y avait qu'eux en fait de clients, ce soir-là, au Petit Paris. Était-ce seulement l'orage? Ni Lugrin, ni Chautan, ni Jautran n'avaient paru de toute la journée. Le matin, Madame Lugrin avait dit à son mari, « Toi, si tu t'avises de mettre le nez dehors aujourd'hui, tu sais ce qui t'attend. » Et Lugrin n'avait pas osé bouger. On ne sait pas ce qui était arrivé à Chautan, ni à Jauteran, ni aux amis de Jauteran, mais ils n'étaient pas venus non plus. Et M. Cortési causait donc avec les cyclistes. Les vagues empêchaient d'entendre le tonnerre, et il fallait élever singulièrement la voix pour se faire entendre soi-même. Par moments, à travers le vitrage, on voyait toute la nuit se soulever, juste le temps de dire « Oh !» et le port se montrait avec ses 2 jetées et les 2 phares qui étaient brusquement éteints, qui se rallumaient. Un morceau du monde était porté à votre rencontre. Il était retiré avant qu'on pût le saisir. Un morceau de monde inconnu avant qu'on ait eu le temps de le connaître. Un morceau de monde qu'on aurait voulu aimer. Et on n'avait pas eu le temps de l'aimer. M. Cortési disait, « Méfiez-vous, ce n'est pas fini. » Et l'électricité, en effet, baisse soudain encore dans les ampoules, comme si elle avait été une simple flamme de bougie que le vent aurait couchée, car le vent venait toujours. Là-bas, il a sonné 3 heures. Les 3 quarts d'une heure sonnent ensuite. C'est alors que Calamin a cru entendre marcher de nouveau dans la cour. La pluie avait cessé de tomber, et le vent pour l'instant se calmait. Il y a eu ce bruit de pas, comme si on était venu vite jusqu'à la porte, et si on s'en était retourné non moins vite qu'on était venu. Calamin a mis son œil au trou de la serrure. Il avait beau s'appliquer de toutes ses forces à voir, il ne voyait rien. La nuit était si noire qu'elle était comme un tampon de chiffon devant le regard. Seulement Calamin savait faire. Bien qu'à présent tout fût tranquille, il a attendu le prochain éclair. Et c'est ainsi qu'il a pu la voir, qui se tenait adossée au mur sous la voûte, étant sur le côté droit de la voûte. Et c'est ce côté de la voûte, heureusement, que l'éclair a peint en couleur. Suzanne, là, qui attendait.